l'histoire. Actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire. Actualité des expositions d'histoire, actualité des documentaires d'histoire. Pour commencer cette émission, nous vous proposons de partir en balade dans un coin du Marais de Paris, à l'hôtel de Soubise, des Archives Nationales. Là s'est installée depuis quelques semaines une exposition, Le secret de l'État, 17e-20e siècle, qui nous raconte comment l'État a contrôlé la question du secret depuis 3 siècles. On y parle d'espionnage, d'élimination d'opposants, de contrôle des communications, etc. Nous visitons Le secret de l'État en compagnie de Sébastien Yves Laurent, historien spécialiste entre autres de l'espionnage et commissaire de cette exposition, de Yann Potin, historien aux Archives Nationales, et de Pierre Fournier. Puis vers 9h45, Catherine de Copé nous présentera sa chronique mensuelle, La Fabrique de l'Autre, dans laquelle elle analyse comment une population distingue une autre population en lui donnant un nom distinct. Et bien aujourd'hui, nous allons parler du mot Kanak. Enfin, dans sa chronique sur les documentaires d'histoire, Anaïs Quin en a vu deux pour nous, L'or rouge de Philippe Baron et Mein Kampf, Manifeste de la haine de Manfred Oldenburg. Elle nous en parlera à la fin de cette émission. Nous voici donc au siège des Archives Nationales, enfin plutôt au bâtiment historique des Archives Nationales, dans le quadrilatère des Archives, au centre de Paris, à l'hôtel de Soubise, là où se tient une exposition qui vient tout juste de démarrer, qui s'intitule « Le secret de l'État » et dont vous êtes le concepteur, un des concepteurs, en l'occurrence Sébastien Yves Laurent. Vous êtes spécialiste de la question de l'espionnage, des espions, de l'histoire justement de ce secret de l'État, et vous êtes pour nous guider dans cette exposition en compagnie de Pierre Fournier. Bonjour Pierre Fournier.
Bonjour.
Et de Yann Potin. Bonjour Yann Potin.
Bonjour.
Alors, nous sommes ici dans une pièce qui se veut un peu emblématique de ce que vous avez voulu montrer, Sébastien Yves Laurent, c'est-à-dire la question du secret, de l'enfouissement, de la descente en profondeur, pourrait-on dire, dans les archives de l'État, à la recherche de ce que c'est que le secret de l'État.
Oui, c'est exactement ça. On est là dans une phase d'immersion au sein du secret, et d'un secret de l'État extrêmement particulier, qui est certainement le secret le plus strictement gardé, qui est le secret nucléaire. On est ici dans une pièce où a été reconstituée, à partir de photos réalisées au sein du Redoutable, les principales pièces, si je puis dire, les principaux espaces de ce premier sous-marin qui a porté l'arme nucléaire et qui a été mis à flot, inauguré très officiellement par le général de Gaulle en 1967.
Le général de Gaulle est très présent dans cette exposition, même si cette exposition se veut beaucoup plus large, puisqu'elle commence au XVIIe siècle et qu'elle se termine à la porte d'aujourd'hui, pourrait-on dire, jusqu'en 2015. Ça s'explique comment, la présence du général de Gaulle un peu partout dans toutes ces salles? Est-ce que c'est parce que les archives sont plus nombreuses et qu'il est plus simple d'utiliser ces archives-là, ou est-ce que c'est parce que la permanence, la personnalité du général de Gaulle colle bien avec ce domaine de l'ombre sur lequel vous travaillez, Sébastien Yves Laurent?
Elle colle très bien, c'est-à-dire que l'on voit la présence physique du général de Gaulle sur cette question du secret de l'État depuis 1945, avec le document autographe qui crée le SDECE, l'ancêtre de la DGSE, jusqu'au secret nucléaire qui est ici avec le Redoutable. Donc il est parfaitement logique que pour toute la deuxième moitié du XXe siècle, le général de Gaulle soit très présent.
Alors, Pierre Fournier, vous êtes directeur ici du Musée des Archives Nationales. Vous accueillez cette exposition. Il y a une bonne raison, c'est parce que tout compte fait, beaucoup de ces secrets sont conservés dans vos propres archives ici.
Effectivement. Sur les 320 items que compte cette exposition, documents écrits, images, audiovisuels, objets, plus de la moitié viennent des fonds des Archives Nationales. Mais ce qui est remarquable et à mon sens une performance, c'est que pour ce faire, nous avons aussi fait appel au fond d'autres départements ministériels, donc des archives des services historiques de la Défense, les archives de la DGSE, des archives et des objets de petits musées de tradition, notamment des musées de transmission. Et c'est ce qui donne cet aspect extrêmement hétéroclite de documents d'archives et d'objets, notamment liés aux techniques du secret.
Yann Potin, vous êtes en particulier historien des archives, pourrait-on dire. Archiviste des archives et historien des archives aussi. C'est concomitant, cette création à la fois des archives avant qu'elles soient nationales, en particulier les archives royales, et de la question du secret qui entoure, à l'époque, la personnalité du souverain, avant qu'il ne soit élu, avant qu'il ne soit un président de la République, mais alors qu'il était un roi, par exemple.
C'est même, je dirais, non seulement concomitant, mais même structurant, puisqu'en fait, les archives ne sont pas simplement le lieu de dépôt, et je ne parle pas forcément là des archives nationales ou des services d'archives publiques, mais des services d'archives de toutes les institutions. Ces archives ne sont pas simplement le lieu de dépôt des secrets, mais bien un des instruments du mode de fonctionnement secret de l'État. Et je crois que c'est ce qui est le pari aussi de cette exposition, c'est bien de ne pas confondre le secret comme contenu, et y compris les petites affaires, et le fonctionnement secret de l'État, et qui lui a une histoire longue, qui remonte effectivement très largement à l'émergence de l'État moderne, disons à la fin du Moyen-Âge. Et en effet, les archives ne sont pas simplement en quelque sorte le dépositaire des secrets ou du secret, mais bien aussi son instrument.
Alors, vous savez bien, pour être spécialiste de ces questions-là, Sébastien Yves Laurent, que dès que l'on prononce le mot secret, il y a tout de suite une sorte de fantasme autour de ce secret. Est-ce que un des objectifs de cette exposition, c'est de dégonfler en partie cette question du secret en montrant des documents, en expliquant comment fonctionne un État, par exemple un État moderne, et en n'allant pas trop dans le sens justement des secrets tels qu'on l'entend habituellement dès qu'on parle de ces questions d'espionnage, par exemple, ou des questions de renseignement.
Effectivement, on a voulu penser large avec cette exposition et inclure dans cet espace secret de l'État, la part d'imaginaire et de représentation. Et finalement, les documents qui attestent, comme le redoutable ici, plus loin, un certain nombre de documents officiels qui attestent de la réalité de ce secret de l'État, eh bien, on en voit l'écho dans la presse, on en voit l'écho dans les œuvres de l'imagination, et c'est l'ensemble qui forme cet espace secret de l'État. La réalité et ses représentations qui sont étudiées et présentées en parallèle.
Alors, on va avancer et sortir de cette cabine de sous-marin pour rentrer dans l'exposition elle-même. Arrêtons-nous par exemple devant cette vitrine qui comporte deux médaillons. D'un côté, un médaillon de Louis XIV, roi très chrétien, et de l'autre côté, Harpocrate, le dieu du silence, un doigt sur les lèvres, avec une date, 1661. Arcana Conciliorum, pourquoi un tel document, une telle médaille pour expliquer aux visiteurs qui rentrent dans cette exposition l'intérêt de ce type de document dans une exposition sur le secret de l'État? Yann Potin.
C'est-à-dire comme le mot arcana, donc devenu arcane en français, le rappelle, au fond, le secret participe de la science même de l'État dans sa gestation, dans son quotidien. Et le secret du Conseil, ou les arcanes du Conseil, au fond, c'est la discrétion élémentaire et essentielle de la parole du roi. Et d'ailleurs, on peut en trouver un écho très indirect de ce doigt, si j'ose dire, à la fois levé et qui bouche
les
lèvres, dans l'affiche de l'exposition, qui montre une sorte de président virtuel, qui est la superposition de toutes les images des présidents, qui lève le doigt, et on ne sait pas si c'est pour fermer la bouche ou pour, au contraire, l'ouvrir. Ce que je veux dire par là, c'est que le mode de fonctionnement de secret de l'État, depuis toujours, repose aussi sur une forme de communication, et qu'on ne peut pas dissocier la part publique de l'activité de l'État de sa part discrète, sinon secrète.
Alors, à propos de part secrète, on peut se déplacer jusqu'à cette vitrine dans laquelle on voit un objet tout à fait étonnant qui vient du musée de la Renaissance d'Écouen, une boîte à chiffrer en forme de livre à l'emblématique d'Henri II, donc on est en 1557, et là on est très étonné d'apprendre, effectivement, par l'intermédiaire de cette vitrine, que le chiffrage est une science bien plus ancienne, Sébastien Yves Laurent, que ce que l'on imaginait.
Effectivement, les langages du secret sont extrêmement anciens. Ils existent finalement depuis qu'il existe des formes politiques assez stabilisées. Ce qui est intéressant avec cette magnifique boîte à chiffrer du XVIe siècle, c'est qu'on rentre dans une phase moderne, du chiffrage, c'est-à-dire qu'on passe par des outils et des boîtes.
Alors il faut la décrire, on dirait presque un livre de messe, hein, une sorte de missel de l'extérieur, très beau missel en laiton pourrait-on dire.
Exactement.
Et puis en fait à l'intérieur on voit des petits trous crénelés, des petits trous dentés avec des chiffres romains qui nous montre effectivement qu'on avait de quoi chiffrer des documents et donc transformer progressivement les lettres que l'on envoyait avec des mots qui ne correspondaient pas, des lettres qui ne correspondaient pas, pour que celui qui puisse recevoir ce document puisse le déchiffrer de son côté, c'est cela ?
Exactement, et on remarquera que le document qui est de petite taille, de la taille d'un livre de poche aujourd'hui, est fait pour être aussi nomade que l'est le pouvoir à cette époque. Il accompagne le souverain et son entourage dans ses déplacements. Ça nous paraît être une œuvre d'art aujourd'hui. À l'époque, c'est un outil du quotidien royal qui accompagne le roi dans ses déplacements et qui permet d'assurer la sécurité de ses informations.
Yann Potin ?
Oui, et cette question de la communication secrète prouve bien qu'il y a là un frottement permanent, hein, entre le dévoilement du secret, puisqu'on anticipe finalement son dévoilement par le chiffrage. Donc il y a une tension permanente. Le secret, ce n'est pas que de la dissimulation. C'est aussi savoir communiquer différemment. Donc il y a aussi toute cette histoire-là des écritures indéchiffrables et qui souvent ne sont pas conservées. Donc en fait, on peut ici contempler l'instrument qui chiffre, mais les écritures chiffrées, par définition, en général, elles disparaissent comme les messages de Mission Impossible.
On ne les a pas conservés. Alors Pierre Fournier, venez avec nous. On va sortir de cette exposition pour aller sur le parvis, sur le perron, sur l'escalier d'honneur de ces archives nationales et nous installer face à un autre outil de chiffrage qui est beaucoup plus récent encore, puisque on se trouve ici devant des machines à chiffrer, pourrait-on dire, beaucoup plus récentes. Celle-ci, elle vient d'où ? Vous me disiez, on a mobilisé pour les archives nationales des petits musées venant un peu partout.
Voilà, donc ce téléphone rouge, hein, vous pouvez le constater, il est effectivement rouge.
Il faut le décrire à nos donc, auditeurs, il correspond à ces téléphones qu'on avait à touche, qu'on avait dans les années 70-80.
80, oui.
Donc orange, avec une belle couleur orange et son fil qui s'entoure sur lui-même.
Alors, il ne s'agit plus de chiffrer des éléments textuels ici. Hein. Il s'agit de permettre donc à l'état-major de la marine, hein, de pouvoir communiquer le plus discrètement possible. Le téléphone en lui-même n'a pas beaucoup d'intérêt puisque c'est un modèle parfaitement standard. Mais ce qui est intéressant, c'est le boîtier sur lequel il est posé, puisque vous avez donc deux interrupteurs, clair et chiffre.
Alors, Sébastien, Yves Laurent, la France avait une particularité dans ce milieu mondial, pourrait-on dire, du secret, du chiffrage, par rapport à d'autres pays occidentaux.
Oui, elle a une particularité dont l'exposition essaie aussi de rendre compte, c'est d'avoir toujours, depuis le 19e siècle, bien évidemment, mais encore aujourd'hui, développé et encouragé des industries souveraines, des industries qui puissent finalement garantir au pouvoir politique le cœur de la maîtrise de l'information, l'autonomie stratégique. Et l'autonomie stratégique passe par des matériels, téléphones, machines à chiffrer, qui sont développés avec des composants et des principes d'utilisation nationaux. Et c'est aujourd'hui une chose beaucoup plus difficile, mais on voit avec ce téléphone qu'on est là au cœur du sujet. La maîtrise de l'information passe aussi par la maîtrise des technologies de l'information.
Alors on va re-rentrer dans cette exposition donc au bâtiment de Soubise des Archives Nationales et nous arrêter avec vous, Sébastien Laurent, devant un document qui vous semble important puisque vous avez décidé de lui consacrer le titre même de votre texte dans le catalogue qui accompagne cette exposition. C'est un document qui date de la Révolution française. Il faut bien dire effectivement que les révolutionnaires voulaient rompre avec des pratiques des rois en particulier, et ils rompent d'une drôle de manière avec ce document. Vous nous le décrivez, Sébastien Yves Laurent ?
Alors c'est un document absolument saisissant que j'avais trouvé aux archives de Maine-et-Loire il y a une dizaine d'années lors de ma thèse d'habilitation. C'est un document qui est un courrier adressé en 1799 par un commissaire de police à son autorité supérieure. Il est à Rochefort-sur-Loire. C'est un document donc qui date de 23 niveaux 1799. Ce qui est absolument exceptionnel, c'est ce qui est imprimé et qui forme l'entête du document. On a une devise qui est indiquée de la façon suivante: liberté, égalité, surveillance, et au milieu, un mélange de symboles républicains et maçonniques. Le bonnet phrygien et le faisceau de Lictor, ce sont des symboles profondément républicains. On renvoie là aux travaux de Maurice Agulon, bien connu. Et puis, on a aussi une l'œil qui voit tout. On a une équerre, un instrument, une règle, des instruments qui sont ceux du maçon, et une couronne de laurier, et bien sûr, un soleil qui brille et qui fout des traits de lumière qui émergent de cet œil. Donc, on a là la rencontre d'une symbolique républicaine et maçonnique, et surtout une devise extrêmement intéressante, liberté, égalité, surveillance.
Eh oui, parce qu'on se dit, on va en finir avec l'arbitraire du roi, on va en finir avec la Bastille, puisque lorsqu'on monte les escaliers qui nous conduisent à cette salle pour cette exposition, on voit une maquette de la Bastille, mais néanmoins, la Nouvelle République veut réfléchir à la façon dont elle va surveiller ceux qui pourraient vouloir sa mort aussi.
C'est exactement ça. Il faut se rappeler que la République, dès ses origines, a dû faire la guerre face à une coalition d'ennemis étrangers dès le début des années 1790 et qu'elle a dû se protéger, surveiller ses nationaux et surveiller au-delà de ses frontières. La République, dès les origines, affirme la surveillance et la compatibilité de la République avec la nécessité de surveiller.
Alors, Yann Potin, sur ce document, avant que nous passions à la salle d'à côté.
En fait, en un mot, c'est aussi la notion derrière qui va être mise en application l'année d'après par la création des préfectures et des préfets, d'une surveillance beaucoup plus quotidienne, beaucoup plus banale, comme la surveillance statistique de la population, et qui va former cette nouvelle catégorie essentielle pour le 19e siècle, et qui là aussi montre que le secret en permanence, en lien de génétique, de gestation avec l'émergence de la culture politique moderne, qui est cette notion d'esprit public, qui est en fait, on surveille pour essayer de prendre le pouls de cet esprit public, qui est l'autre nom à l'époque de ce que nous appelons aujourd'hui l'opinion publique. Donc finalement, il y a un lien aussi entre
la naissance de l'opinion publique,
et la scrutation de la population dans ses paroles, mais aussi peut-être dans ses consciences.
Can he say, parlez-vous français?
I am français.
Splendidly done.
Merci, monsieur.
I am a HAL 9000 computer. I became operational at the HAL plant in Urbana, Illinois. On the 12th of January, 1992.
Passons devant une myriade d'autres documents très intéressants et très importants de cette exposition « Le secret de l'État » donc aux Archives nationales. Pour nous arrêter, on en parlait tout à l'heure, sur une période plus récente, les années 50, l'arrivée de Gaulle au pouvoir, la création donc des techniques de renseignement modernes, pourrait-on dire, après la Seconde Guerre mondiale. Et là, vous avez rassemblé quelques documents tout à fait exceptionnels, Sébastien Yves Laurent, pour cette exposition. D'abord, celui-ci, il ne paye pas de mine, pourrait-on dire.
Alors, seul un œil aiguisé d'historien et d'archiviste, en l'occurrence, puisque c'est Jean-Pierre Bas qui travaille ici, a pu faire émerger ce document absolument banal. C'est un document probablement absolument unique, par ce qu'il désigne, mais aussi par ce qu'il représente. De quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement d'une fiche produite dans l'entourage du chef de l'État. Nous sommes le 1er août 1958. Cette fiche désigne un objectif, qui est en l'occurrence un sujet allemand, qui réside au Maroc. dont on suppose qu'il aide le FLN algérien. Et
dans
cette
l'organisation
fiche,
de désertion de légionnaires français en particulier.
Voilà, ça c'est une grande tradition, notamment au Maroc. Et ce document nous montre que cet individu est désigné comme un objectif pour être, on dira, éliminé, on dit neutralisé dans le document. C'est encore d'ailleurs un vocabulaire que l'on utilise lorsque l'on parle des terroristes en Afrique ou au Moyen-Orient. Ce qui est très intéressant, c'est que, outre les mentions, le document est dactylographié, on a là toute une série de commentaires qui est faite par l'entourage de Jacques Foccart, si ce n'est par lui-même, et surtout, il est indiqué accord de l'amiral Cabanier, c'est l'autorité militaire, transmis aussitôt au lieutenant-colonel Roussilla. Ce lieutenant-colonel Roussilla, il dirige à l'époque le service action du SDECE, qui est l'actuel DGSE. Donc c'est un document qui désigne un objectif, une personne à assassiner.
Oui, il faut traiter discrètement par toxique indétectable et à effet différé. On voit bien ce que cela signifie. On est à la période d'OSS 117 et on voit bien effectivement de l'invention d'OSS 117 et des personnages par d'autres auteurs de romans policiers ou d'espionnage, des personnages qui vont justement sur le terrain de l'Afrique assassiner des gens. Eh bien, on est dans cette optique-là et d'ailleurs...
Et on est dans le réel.
On est dans le réel. Et juste à côté, d'ailleurs, vous avez placé dans la même vitrine une carte du SDEC sur l'action communiste en Afrique réalisée à l'attention de la présidence de la République en septembre 1959. Et c'est une carte en couleur sur laquelle on voit les mouvements de libération, etc., qui peuvent empêcher l'action des Français sur le territoire africain, en particulier dans les colonies qui sont encore des colonies, parce qu'on est en septembre 1959 pour beaucoup d'entre elles.
Effectivement, Charles de Gaulle est devenu à cette époque-là un personnage différent, il est président de la République, et c'est le dossier du président de la République que lui prépare quotidiennement Jacques Foccart. Ce qui est intéressant, c'est de voir le caractère à la fois moderne, c'est-à-dire des cartes avec des figurés de couleurs pour indiquer les différentes typologies de menaces, mais en même temps son caractère extrêmement simple. Ce ne sont pas des documents très élaborés, et c'est ça qui est peut-être le plus frappant. À côté du document précédent que l'on vient de citer, de 1958, la vision qui est donné au président, les outils de connaissance qu'il a sont extrêmement simples.
Oui, Yann Potin, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que quand on lance une exposition comme le secret de l'État, on s'attend à des documents un peu fanfarons, qui bombent le torse d'une certaine façon. Or, tout ce qui est présent ici est relativement simple, relativement modeste et ne bombe pas le torse, justement. C'est-à-dire que ce sont des documents qui ne disent pas véritablement qui ils sont.
Oui, parce que d'abord, ce secret de l'État est inscrit, dans, une fois de plus, dans le quotidien. Et donc, il est diffus dans le quotidien du fonctionnement de l'État. Et il est, si j'ose dire, toujours articulé avec toute une chaîne d'opérations, de décisions, donc de documents. Et c'est en ça, d'ailleurs, qu'il est extrêmement labile et difficile à saisir. Donc, au fond, le secret de l'État, il faut toujours, son mode de fonctionnement secret, il faut toujours le chercher par ricochet, en quelque sorte, ou dans les interstices, dans les replis de documents qui, eux, sont, on va dire, ordinaires. Et c'est là où la chose peut se retourner, parce que il y a parfois, quand on passe un protovide, des documents ordinaires qui contiennent un non-dit qu'il faut savoir décrypter, justement.
Oui, alors Sébastien Yves Laurent, on va avancer dans cette exposition, passer malheureusement à côté de ce bel exemplaire qu'on aimerait lire des recherches scientifiques en URSS, donc un rapport établi par le SDEC et conservé donc au titre de documentation à propos de la défense nationale par le 5e bureau du CNRS. Donc là, c'est de l'espionnage industriel, on peut dire, c'est cela ?
Exactement, c'est un document élaboré par le SDEC, livré au CNRS afin de l'informer de l'état de la recherche scientifique en URSS. Ça veut dire que dès cette époque-là, nous sommes en 1950 avec ce document, le SDEC n'est pas un organisme qui fait des opérations que l'on vient d'évoquer, mais qui a aussi tout un département qui s'intéresse finalement à la compétition technologique entre les puissances, qui fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure.
Alors, il y a aussi des lièvres à lever, des idées reçues à supprimer. Yann Potin, on pense évidemment souvent, grâce à Schulmeister, espion de l'empereur, au rôle central qu'aurait joué Napoléon dans cette question de l'espionnage, dans cette question de l'histoire du renseignement. Et puis on s'aperçoit dans cette exposition qu'il y a bien d'autres moments, bien d'autres endroits où on peut évoquer ces questions-là et que Napoléon n'est pas hyper central, pourrait-on dire, autour de cette question du renseignement.
Alors je crois qu'en effet, c'est pas tant d'ailleurs Napoléon qu'un de ses avatars Fouché, enfin un de ses proches collaborateurs avec qui il a eu des rapports tendus. Donc il y a effectivement autour de la période napoléonienne des personnages qui sont, y compris dans la littérature, associés au mode de fonctionnement secret de l'État. Il y a quand même quelque chose d'intéressant à ce niveau-là, c'est que la Révolution, clairement, a été un moment utopique. On voit bien à quel point, puisqu'après tout, elle a pu même réinstaller la surveillance comme un devoir, elle a pu faire oublier pendant quelques années, ou faire croire d'oublier, un mode de fonctionnement qui existait auparavant. Donc peut-être que le caractère central de Napoléon, c'est pas tant sa réalité qu'au fond, le retour à la normale, mais qui apparaît comme une réinstauration. Alors après, effectivement, finalement, le 19e siècle s'ouvre sur Napoléon, mais se termine sur l'affaire Dreyfus, qui va mettre à l'épreuve le mode de fonctionnement secret de l'État.
Alors là, dans cette alcôve dans laquelle nous nous trouvons, Sébastien Yves Laurent, il y a quelque chose d'important, c'est le lien au chef de l'État. Et d'ailleurs, il est tellement marqué, ce lien au chef, que lorsqu'on rentre dans cette alcôve, la première chose qu'on voit, c'est le profil en ombre chinoise de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui est important, on y voit aussi la figure de Foccart ou celle de Constantin Melnik, des personnages qui ont été proches du Premier ministre Michel Debray ou du chef de l'État de la Ve République qui était Charles de Gaulle. Et vous avez même mis, et on se demande un peu pourquoi, mais vous allez nous l'expliquer, dans une vitrine, des photos de chasse présidentielle à Rambouillet, par exemple, ou à Marly, des chasses présidentielles qui servaient aussi à ces questions du renseignement sans qu'on le sache véritablement, Sébastien Yves Laurent ?
Disons qu'on le devine, si ce n'est on le suspecte très fortement. Cette alcôve est effectivement dédiée au lieu du secret, et notamment aux lieux qui sont dans la proximité du chef de l'État, qu'il soit le Premier ministre ou le Président de la République. Ce sont des lieux entre quatre murs, des pièces, des bâtiments. On a là les plans originels de la DGSE d'aujourd'hui. Mais on a aussi des lieux où l'État secret nomadise. Et il nomadise pas seulement lors de conflits, il nomadise aussi en temps de paix lorsque toute une partie de l'entourage du chef de l'État, du président de la République, l'accompagne dans les chasses. On a là des photos assez étonnantes qui viennent encore une fois des fonds Foccart. On en trouve aussi, je crois, des copies dans les fonds présidentielle, où l'on parvient très bien à identifier un certain nombre de conseillers du président Pompidou. On voit Foccart qui est resté sous Pompidou dans l'entourage du président de la République, mais on y voit aussi Marie-France Garraud et Pierre Juillet qui seront deux personnages importants de l'entourage de Georges Pompidou.
Oui, alors il y a l'entourage du président de la République et puis il y a aussi les trahisons dont il fait l'objet d'une certaine façon. Et évidemment, quand on dit trahison, on dit sanction. On voit dans cette vitrine, juste à côté des autres, une histoire un peu méconnue que vous allez nous raconter, Sébastien Yves Laurent, celle de Georges Pack.
Georges Pack est un personnage très intéressant parce que lorsqu'il est arrêté en 1964, c'est un haut fonctionnaire, 49 ans, issu de l'école normale supérieure. Il a été d'ailleurs camarade de promotion d'un certain Georges Pompidou. Et lorsqu'il est arrêté en 1964, la police, qui est en l'occurrence la police de contre-espionnage, la DST, qui le surveillait depuis longtemps, s'aperçoit qu'il a trahi pendant plus de 20 ans et qu'il a livré toute une série de renseignements concernant à la fois les autorités françaises mais aussi l'organisation du pacte atlantique, l'OTAN, dans lequel il travaillait et qu'il a donc durablement travaillé pour les soviétiques. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a là une photo volée qui rend compte de ce que l'on voit. C'est Georges Pack, la vue est prise en plongée entre des policiers qui sortent d'un fourgon et qui va entrer dans la salle d'audience de la Cour de Sûreté de l'État, un tribunal spécial créé en 1963 pour réprimer les tentatives de subversion. Et ce qui est intéressant avec Georges Pack, c'est que ce personnage a assez facilement avoué. C'est une étape très importante parce que elle va éprouver le fonctionnement de la Cour de Sûreté de l'État, mais surtout elle va crédibiliser très fortement le travail de surveillance de la DST. C'est près d'une dizaine d'années d'enquête qui aboutissent là. On est sur un personnage étonnant et on a mis au cœur de la vitrine un ouvrage qu'il écrit en 1970. Il l'a écrit pendant sa détention. C'est un roman qui est paru chez Julliard quelques mois après sa libération, grâce à la grâce présidentielle de son camarade Georges Pompidou. Il écrit un roman où il essaie de se justifier, et le roman s'intitule « Comme un voleur ».
Alors, juste à côté, parce qu'il ne faudrait pas croire que cette exposition n'est consacrée qu'à Charles de Gaulle, à ses proches, à Jacques Foccart et à deux ou trois autres, il y a tout de même un peu de Mitterrand. Il fallait qu'il y ait du Mitterrand pour que cette exposition fût complète. Et ce Mitterrand, c'est celui qui change justement le code pénal relatif à la répression des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique. Et vous expliquez dans vos travaux, Sébastien Yves Laurent, que c'est un changement important, qu'il n'y en a pas si souvent que cela, des changements à propos justement de ces crimes d'espionnage, de ces crimes qui sont liés à la sécurité ou à la sûreté de la nation. Et que c'est donc François Mitterrand qui, en 1992, rajoute un chapitre supplémentaire au chapitre précédent.
Exactement. C'est un acte extrêmement important que l'on oublie souvent dans le bilan des années Mitterrand. Peut-être que l'année de commémoration à venir permettra d'y faire une place. On a là un exemplaire signé de la main même de François Mitterrand, de son premier ministre à l'époque, Pierre Bérégovoy. C'est toute une série de réformes structurelles du code pénal datant de 1810. Finalement, le code pénal a été révisé sur un certain nombre d'aspects, mais en matière de sûreté de l'État, qui est la notion cardinale du code pénal depuis 1810, ce nouveau texte de 1992, applicable à compter de 1994, crée désormais une catégorie hautement importante qui s'appelle les intérêts fondamentaux de la nation, qui remplace la sûreté de l'État. Ces intérêts fondamentaux de la nation, on les retrouve mentionnés tels quels, bien évidemment, dans la loi sur le renseignement qui a été votée au printemps et validée par le Conseil constitutionnel à l'été 2015.
Vous pensiez peut-être pas, en lançant cette exposition ici, Pierre Fournier, que cette loi sur le renseignement serait en train d'être votée, a été votée, mais aussi le Pentagone à la française, puisqu'on a évoqué tout à l'heure la caserne des Tournelles qui va être inaugurée, qui a été inaugurée ces jours-ci. Donc tout un tas de choses qui modernisent d'une certaine façon cette question qui plonge ses racines dans une histoire longue, Pierre Fournier.
On ne s'y attendait pas. Le projet a démarré il y a plus de 3 ans maintenant.
Il y a plus de 3 ans, voilà, même s'il a été réactivé par les attentats de janvier.
Voilà. C'est tout un ensemble de faits d'actualité, d'activités législatives, etc., etc. Et nous sommes en plein cœur de l'actualité.
Oui, et on va terminer d'ailleurs avec ce par quoi on a commencé avec vous, Sébastien Yves Laurent, et avec vous, Yann Potin, c'est-à-dire le fait que les archives sont l'endroit, pourrait-on dire, où l'on conserve la plupart des documents, on l'a dit au début, mais la plupart des documents qui sont présentés dans cette exposition, parce qu'ils sont liés à cette question du pouvoir, et qu'il y a une liaison presque intriquée, une intrication très forte entre les uns et les autres. D'ailleurs, dans cette salle, si on se déplace de 3 ou 4 mètres, on trouve bien le contenu de ce qu'on a appelé l'armoire de fer. Rappelez à nos auditeurs ce qu'est l'armoire de fer aux Archives nationales. Yann Potin.
Qu'on appelle toujours l'armoire de fer, qu'on a appelé, qu'on appelle depuis la Révolution l'armoire de fer, et qui est effectivement un objet, puisqu'en quelque sorte c'est un coffre-fort, un des espaces qui est à la fois le plus célèbre du lieu dans lequel nous sommes, qui irrigue en quelque sorte les dépôts de son aura depuis 200 ans, depuis la création des Archives nationales, puisqu'elle date de 1790, et qui en même temps a été un peu le lieu de mise en scène d'un secret, mais d'un secret différé. Ouais. Et ça c'est très important. Et y compris dès la Révolution, puisqu'en fait cette armoire de fer contient une partie des papiers de l'armoire de fer des Tuileries, qui, elle, a sa propre célébrité, y compris iconographique, le fantôme de Mirabeau, la trahison du roi, etc., et qui est, en quelque sorte, le lieu un peu imaginaire, mais aussi réel, de dépôt des documents les plus précieux, parfois certains qui furent secrets, et c'est la mission des archives, en quelque sorte, qui se trouve là, modélisée, en quelque sorte, c'est de rendre public un secret en différé. Et on peut même dire
qu'une archive n'est pas communicable immédiatement après qu'elle a été produite, mais le législateur, dans sa grande sagesse, comme on dit généralement quand on parle du législateur, pense effectivement à un délai à partir duquel on pourra consulter justement ces documents, et quand ils sont secrets ou quand ils ne le sont pas d'ailleurs. Pierre Fournier, sur cette armoire de fer, et aussi sur cette question des missions des Archives nationales, si vous voulez vous avancer par ici, avec un tout petit peu moins de bruit que celui que nous entendons lors du montage de cette exposition. Oui, cette question du secret.
Alors, effectivement, j'espère que cette exposition va être l'occasion pour nous, aux Archives, d'expliquer au public cette ambiguïté. Il y a deux armoires de fer. L'une, très célèbre, où Louis XVI cachait sa correspondance.
De cette armoire de fer, des Tuileries, donc avec étiquette cartonnée et sceau rouge, avec mention coffre provenant d'un lot de 5 clés remises par Louis XVI à Thierry, valet de chambre du roi, au Feuillant, le 12 août 1792. Voilà. Ça, c'est dans cette petite vitrine.
Voilà. Et donc, l'armoire de fer des Archives nationales, qui existe, elle, toujours, hein, qui a été créée par la Révolution française. Et donc, j'espère que la confrontation entre ce jeu de clés de l'armoire de fer de Louis XVI, la gravure où l'on voit Mirabeau sortir en squelette de cette armoire avec sur un tas de correspondances secrètes, va nous permettre d'expliquer au public justement la différence entre ces deux lieux symboliques du secret et leur proximité aussi, comme l'expliqua à l'instant Yann Potin.
Et on va terminer cette visite avec vous, Sébastien Yves Laurent, avec un titre qui dit presque tout, pourrait-on dire, de ce qu'est cette question du secret de l'État. C'est le titre du livre d'Edwy Plenel, évoquant la figure de François Mitterrand, dont on parlait tout à l'heure, La part d'ombre. Et tout compte fait, les gens qui vont se presser dans cette exposition ici aux Archives nationales, c'est aussi cela qu'ils viendront chercher.
Ils viennent chercher un peu de lumière, ils y verront quelques éclairages. C'était en tout cas le projet scientifique qui a animé cette exposition. Et ils verront que cette ombre n'est pas, comme les métaphores autour de la lumière le laissent croire, quelque chose de naturel. Cette part d'ombre, c'est une construction inscrite dans la longue durée, le temps favori de l'historien. Et c'est une construction qui suppose l'intervention du droit, de la norme, de bureaucratie spécialisée, de mise en œuvre du secret politique. La part d'ombre de l'État, le secret de l'État subsistera très certainement et bien évidemment c'est sa fonction principale.
Et vous avez évoqué le travail scientifique qui a présidé à cette exposition. Il y avait tout un comité scientifique qu'il faut mentionner peut-être comme étant ce qui a pensé cette exposition ici aux Archives nationales, Sébastien Yves.
Effectivement, c'est la première fois que les Archives nationales qui organisent des expositions, ont réuni un conseil scientifique international qui a réuni des archivistes et des historiens français, espagnols, britanniques, allemands, qui m'ont considérablement épaulé, conseillé, guidé pour élaborer ce qui est la mise en œuvre, l'inscription dans l'espace, par l'image, par le son, de ce que j'ai appelé le secret de l'État.
Merci à vous Sébastien Yves Laurent, merci à vous Pierre Fournier de nous avoir accompagnés dans cette exposition, merci à vous Yann Potin. Cette exposition est accompagnée d'énormément de manifestations annexes, en particulier des conférences, des débats qui permettront d'éclairer les auditeurs et les spectateurs de cette exposition sur cette question. Yann Potin,
un dernier mot. Non, il y a aussi d'un livre,
bien sûr,
qui est un peu plus qu'un catalogue, qui essaye justement de faire... la synthèse de la richesse du parcours, mais qui lui finalement offre beaucoup de replis possibles. On n'a pas parlé de toutes les périodes, hein, mais en gros, on a quand même un parcours du 17e au quasiment au 21e siècle.
Merci à tous les trois donc et bonne visite à ceux qui viendront vous rejoindre dans cette exposition aux Archives nationales, dans le carré des archives ici à l'hôtel de Soubise à Paris. Merci encore. Sur France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, l'émission d'actualité du vendredi. Après nous être promenés dans cette exposition Le Secret de l'État, nous accueillons Catherine Decopé. Bonjour Catherine.
Bonjour Emmanuel.
C'est l'heure de vous retrouver pour votre chronique mensuelle, donc La Fabrique de l'Autre. Je rappelle le principe de cette chronique, c'est de vous partez d'un mot nouveau, justement, qui désigne les autres ou un groupe de personnes identifiées comme telles, et vous nous emmenez dans un chapitre d'histoire qui a vu naître ce terme. Alors, à l'heure de la COP 21, qui se termine ces temps-ci, vous avez souhaité mettre un coup de projecteur sur certains participants qui sont passés assez inaperçus dans les médias, sauf peut-être pour signaler leur costume traditionnel coloré. Et pourtant, ils sont concernés au premier chef par le réchauffement climatique. Ce sont des peuples autochtones et c'est l'occasion pour vous de vous intéresser à un mot et à son histoire justement. Et cette histoire, c'est le mot Kanak.
Oui, ce mot Kanak est utilisé pour désigner les populations mélanésiennes de Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire la population présente sur cet archipel océanien depuis des milliers d'années. Une population qu'on appelle toujours Kanak aujourd'hui et qui représente environ 40% des habitants de l'archipel si on s'en tient au recensement basé sur leur déclaration. Donc d'après les spécialistes, Kanak viendrait du polynésien, où il signifie tout simplement « homme ». Et ce qui est intéressant, c'est comment il est arrivé en Nouvelle-Calédonie et a intégré le langage courant. Pour comprendre, il faut remonter au 19e siècle, au moment où il existait dans le Pacifique des langues assez particulières qui s'étaient constituées entre les populations locales et ceux qui étaient régulièrement en contact avec elles, les chasseurs de baleines, les santaliers, c'est-à-dire ceux qui faisaient le commerce du bois de santal, et les pirates. Alors ces langues s'appelaient des langues véhiculaires et elles ont été regroupées sous l'appellation pidgin. En Nouvelle-Calédonie, le pidgin qui était parlé ressemblait à une sorte d'anglais mêlé de mots venus d'Europe, de Chine et d'autres régions du Pacifique. Et la langue qui nous intéresse s'appelle le Bishlamar, ce pidgin qui était parlé en Nouvelle-Calédonie à cette époque. On la parle encore au Vanuatu, c'est même l'une des langues officielles qu'on appelle Bislama. Et donc c'est grâce à ce Bishlamar que le mot Kanak serait arrivé en Nouvelle-Calédonie.
Alors voilà donc pour l'histoire et l'étymologie, mais ce mot Kanak vous intéresse, Catherine, parce qu'il renvoie aussi à la fois à l'histoire coloniale et à l'histoire contemporaine.
À l'histoire coloniale, oui, en tout cas à partir du moment où les Français ont pris possession de ces terres colonisées, d'abord par les Anglais, c'est-à-dire en 1853. Napoléon III, vous le savez, avait choisi l'archipel pour y implanter une colonie pénitentiaire. Donc c'est à cette époque que le terme Kanak intègre le français, sous l'orthographe C-A-N-A-Q-E. Donc dans ce français de Nouvelle-Calédonie, le mot va prendre rapidement une connotation très péjorative et insultante. Rappelons qu'un groupe de Mélanésiens sera envoyé à Paris pour l'exposition coloniale de 1931 et exhibé comme des animaux au bois de Boulogne. Malgré cette histoire stigmatisante, ou peut-être justement en vertu de cette histoire, le mot Kanak a repris une force inattendue à partir des années 1970, au moment où le mouvement indépendantiste s'est forgé théoriquement et politiquement. En fait, l'entrée en politique des populations locales datait de 1946, date à laquelle une loi avait attribué la citoyenneté pleine et entière, et donc le droit de vote, à tous les ressortissants des territoires d'outre-mer. Mais il faut noter que les premiers élus mélanésiens ont adopté une attitude pacifiée, à rebours de ce qui se passait dans les autres colonies françaises. Leur discours prenait un attachement à la France, sans revenir forcément sur les injustices coloniales, faites de répression armée et de spoliation foncière. Et donc cette attitude allait de pair avec l'acceptation, par cette génération de politiques, des noms en usage chez les colons pour désigner les populations colonisées, indigènes, autochtones et donc Kanak avec un C.
Alors en fait, c'est la génération indépendantiste qui émerge à la fin des années 70, qui va complètement bouleverser la donne à propos de ce mot, justement, Catherine.
Ces nouveaux leaders politiques vont décider de s'approprier le terme Kanak en en changeant l'orthographe. Désormais, Kanak s'écrit K-A-N-A-K et fonde une revendication identitaire commune. Cette identité Kanak recouvre de fait une grande diversité, comme en témoignent encore aujourd'hui les 28 langues locales qui sont reconnues sur l'archipel. Et alors le glissement du terme Kanak vers son sens politique sera consolidé en particulier par le charismatique Jean-Marie Tjibaou en 1975, dans la pièce qu'il écrit pour le fameux festival Mélanésia 2000. Le leader indépendantiste associe le terme Kanak au nom d'un héros d'un mythe régional kanakais. La revendication identitaire se double ainsi d'une revendication culturelle qui est unifiée par ce terme Kanak. La suite de cette histoire, c'est le développement du mouvement indépendantiste Kanak, les affrontements entre pro et anti-indépendantistes à partir de 1984, qu'on appellera les événements, les accords de Matignon en 1988, puis l'assassinat de Jean-Marie Tjibaou, et enfin l'accord de Nouméa en 1998. Un accord qui inscrit la notion de double légitimité pour l'avenir de l'archipel, celle des Kanak et celle des non-Kanak, qui se feront appeler aussi nouvelles populations. J'en termine avec le fait que le FLNKS, le parti de Jean-Marie Tjibaou, avait déposé à l'ONU un projet de constitution pour la République de Kanaky, et donc Kanaky aurait été le nom de ce futur État qui se référait à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et qui aurait choisi le français comme langue officielle.
Merci de cette précision, de cet itinéraire d'un mot, le mot Kanak, Catherine de Copé, on vous retrouvera le mois prochain. On va mettre les références qui vous ont permis de préparer cette chronique sur le site de France Culture. Et je voulais rajouter à votre propos, puisque plusieurs historiens et historiennes m'en ont parlé en me disant que c'était un livre à lire que je n'ai pas encore lu, que vient de paraître il y a quelques semaines, Les sanglots de l'aigle pêcheur chez Anna Carsis, Nouvelle-Calédonie, la guerre kanak de 1917, un livre signé Alban Binsin, Adrian Mulkel et Kakwe Yvon Goro-Moedo, qui raconte effectivement un sujet que vous connaissez bien, puisque vous en avez parlé dans la fabrique de l'histoire, Anaïs Quin. C'est donc la guerre de 1917, mais c'est un travail, paraît-il, formidable chez Anacarsis, puisqu'il reprend les différents récits, les façons dont se sont racontés, s'est racontée cette guerre kanak et comment c'est parvenu jusqu'à aujourd'hui, un travail à la fois d'anthropologie et d'histoire, dont plusieurs historiens m'ont dit le plus grand bien. Je voulais le citer à la fin de cette chronique de Catherine de Copé. Vous êtes avec nous, Anaïs Quin, pour votre chronique sur les documentaires d'histoire. Et vous avez choisi aujourd'hui de nous parler de deux documentaires, l'un dont vous dites qu'il est plutôt très bon, voire excellent, et le second un peu moins, le premier. Donc c'est un documentaire, meilleur documentaire télé d'archives selon vous de l'année, ce qui paraît extraordinaire. Ouais. Ça s'appelle L'or rouge de Philippe Baron.
Oui, un documentaire intelligent, pertinent, d'autant qu'il se saisit de la formule du documentaire fiction, bien souvent décevant à la télévision. Il s'agit ici d'une traversée du XXe siècle à travers l'histoire de la transfusion sanguine qui nous est contée par Herbert Stern, médecin allemand, immigré aux États-Unis dans les années 30. C'est un personnage fictif composé à partir des biographies de plusieurs scientifiques par les auteurs du film et notamment par le réalisateur Philippe Baron.
Vous avez raison, souvent la catégorie du documentaire fiction est difficile, assez mal composée, assez mal construite.
Oui, on a rapidement l'impression d'être devant ce jeu d'acteurs cher à Murnau dans Nosferatu, de visages effarés qui montrent l'émotion historique. Alors, notre Herbert Stern a son petit côté Monsieur X du sang, de la Première Guerre mondiale au combat pour les droits civiques aux États-Unis dans les années 60. Il est notre fil d'Ariane pour embrasser tous les mouvements du monde qui ont mis en cause cette histoire du sang. On se crispe un petit peu au début à la vue des balbutiements de la transfusion. Puisqu'on ne sait pas conserver le sang, le don se fait directement de bras à bras, après avoir incisé la peau pour accéder aux veines que l'on dénude, pour y insérer un tube, autrement dit une très très grosse aiguille. Les archives de ce cinéma médical sont incroyables de précision et de pédagogie, mais également de beauté, et voisinent avec bonheur avec les archives cinématographiques, puisque sauver des vies en donnant son sang à la collectivité, ça n'est pas une évidence au début du siècle, loin de là, et la question se pose jusque dans les intrigues projetées dans les salles de cinéma. Perd-on son âme si l'on se déleste de quelques centilitres de sang? Et le sang d'un inconnu peut-il changer notre identité profonde? Le débat fait événement aussi bien dans la presse que dans les fictions des années 20. Caruso lui-même, dans une interview, s'inquiète de l'intégrité de sa pureté italienne après une opération au cours de laquelle il a dû être transfusé. Alors cette anecdote pourrait rester simplement grotesque si elle n'était accompagnée du développement des recherches sur le sang destinées à faire la preuve d'une hiérarchie raciale et de la supériorité arienne chère aux scientifiques nazis, malgré la découverte précoce en Pologne de la présence de tous les groupes sanguins dans la totalité des groupes ethniques du monde. Alors Herbert Stern, notre fameux Herbert Stern, notre guide dans cette histoire mondiale du sang, raconte avec rage son exclusion de la liste des donneurs volontaires à la fin des années 30. Son sang est devenu poison, selon les législateurs du Troisième Reich. Émigré aux États-Unis, Stern découvre une autre forme de racisme institué par le sang dans le cadre de la ségrégation raciale des Noirs. L'astuce scénaristique nous permet désormais de suivre les recherches en hématologie et leur influence sur la société sur deux fronts, de part et d'autre de l'Atlantique. La Croix-Rouge américaine, malgré la guerre, ne cesse de conditionner séparément le sang des donneurs noirs et des donneurs blancs qu'en 1948. L'inventeur du plasma lui-même, Charles Drew, se voit interdire d'être donneur puisque métisse de son état. On en est encore à penser qu'une goutte de sang noir pourrait changer la couleur de la peau d'un blanc transfusé. Alors les campagnes pour le don du sang se multiplient cependant. Humphrey Bogart en devient même l'ambassadeur et c'est au cours de la guerre d'Espagne, première surprise de ce film, que l'on généralise l'usage du sang conservé, qui ne nécessite plus la présence du donneur et du transfusé, et ces images relativement horribles que j'ai citées un tout petit peu plus tôt. Alors le mythe du sang comme marqueur de l'identité profonde, du lignage, vecteur de la race, aura la peau dure pour longtemps, mais pas pour toujours. Laissez tomber vos coffrets d'Apocalypse et jetez-vous sur ce film.
Voilà, alors ça c'est un très bon film, L'or rouge de Philippe Baron, je le rappelle, mais vous êtes peut-être un peu plus circonspect vis-à-vis de Mein Kampf, manifeste
Manifeste de la haine de Manfred Oldenburg, diffusé sur Arte mardi prochain à 22h25.
Absolument, soyez cependant plus prudents si vous tombez sur Mein Kampf, ce Manifeste de la haine. Ce documentaire nous propose ici le versant allemand de la polémique autour de la réédition du tristement célèbre ouvrage d'Adolf Hitler, dont les droits tombent dans le domaine public le 1er janvier, donc dans 2 semaines. C'est un curieux film que ce documentaire où le réalisateur semble lutter contre les historiens qui l'interrogent pour défendre sa propre thèse éculée qui voudrait que la Shoah soit contenue tout entière dans cet ouvrage. Un tas de papiers recouverts d'une rhétorique haineuse et médiocre serait donc, avec son auteur une fois de plus, les seuls coupables des millions de morts de la Seconde Guerre mondiale. Un exemple, il tire de Mein Kampf une courte citation sur les gaz de combat de la Première Guerre mondiale pour en proposer le commentaire à l'un des historiens du nazisme qui est en charge de l'édition allemande de Mein Kampf qui devrait sortir début 2016. Et celui-ci affirme que le rapprochement avec les chambres à gaz est un peu rapide. Visiblement déçu, le réalisateur nous relie le passage coupable une deuxième fois, histoire d'enfoncer le clou, convaincu d'y voir un programme à grand renfort d'effets spéciaux, de surlignage graphique du texte à l'écran qui clignote quasiment sous nos yeux. Donc lisez plutôt l'ouvrage de Johann Chapoutou, La loi du sang, pour comprendre la construction culturelle, intellectuelle et sociale de la pensée nazie.
Exactement, cette La loi du sang a été publiée aux éditions Gallimard. Merci beaucoup Anaïs Kahn de nous avoir présenté à la fois L'or rouge de Philippe Baron, que vous avez beaucoup aimé. On le trouve en DVD, cet or rouge.
J'ai vivement lundi sur le site, on mettra le lien sur la page du jour.
Absolument, et donc Mein Kampf, Manifeste de la haine de Manfred Oldenburg, qui vous a beaucoup moins plu. Merci beaucoup. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet. Jean-Guilain Meige était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter cette émission ou toutes les autres, par exemple celle de cette semaine sur les réformes religieuses, allez sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez écouter l'émission pendant 1000 jours, la télécharger pendant l'année qui suit sa diffusion et laisser vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook de la Fabrique de l'Histoire. La semaine prochaine, nous sommes encore ensemble, Anaïs Kahn, pour parler de Révolution française.
Absolument, et pour commencer, lundi, nous parlerons de la façon dont la loi s'empare de la terreur pour l'appliquer avec Éric Demary.